Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Ensuite, on nous amène où ? On nous amène au gondole, parce que c'est une activité incontournable si vous allez à Mexico. Il faut faire les lagunes avec des gondoles. Donc, Alessandro doit négocier, car on nous charge très cher comme touriste. Alors, il me dit, il nous dit, je me charge de faire les choses. Ils sont chez eux, ils sont dans leur pays. Ils connaissent leur monde. Alors, comme il est mexicain, il connaît ce type de marchandage. Alors, on le regarde faire. C'est vraiment intéressant. Alors, il y a quelqu'un avec qui il cause, il parle, lui parle, prend un papier, etc. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Moi, je pensais que le papier, c'était le billet. Alors, on s'aperçoit que non, c'est un papier qu'il lui a donné, tout simplement. S'il change d'idée, s'il veut revenir, alors on reviendra vers la personne qu'il vient de rencontrer. Eh bien, Alessandro va continuer sa recherche. Il va finir par trouver quelqu'un et une gondole, et quelqu'un qui va conduire la gondole. Alors, nous paierons 5 fois moins cher que le premier prix proposé. Alors, c'est excellent comme négociateur, n'est-ce pas ? Alors, un jeune Mexicain avec une longue perche va conduire l'embarcation. Nous voguons dans des lagunes où plusieurs gondoles se rencontrent. C'est vraiment sa fourmille. On voit des familles, des jeunes, des gens qui sont en fête, qui nous saluent, il y a de la musique. Certaines gondoles sont animées par des musiciens de musique classique. Il y a des violons, des contrebasses, il y a des trompettes, il y a des chanteurs. Alors c'est la fiesta, c'est la fête, c'est le bonheur, c'est dimanche. Donc beaucoup de gens viennent pour se promener dans les lagunes. Et c'est agréable, c'est reposant, c'est beau. C'est simple, c'est la joie. Il y a des gondoles aussi qui sont des petits magasins. Alors on nous propose ceci, cela. Il y a des vendeurs de tissus, des vendeurs de bijoux. Exceptionnellement, je prendrai une nappe bien négociée par Alessandro. Je n'aime pas acheter dimanche, mais je ferai une exception parce que je me dis ce sont des gens qui doivent gagner leur vie durement. C'est pas facile. Alors, je fais une petite exception. Comme je vous dis, je n'aime pas du tout. Vous ne me verrez pas dans les centres commerciaux le dimanche. Sauf si je dois aller acheter du lait ou du pain. Ça va. Mais pour le reste, je me dis, il y a tous les autres jours de la semaine pour lesquels tout le monde sera très heureux de me vendre ce qu'ils voudront. Alors, agréable détente dans ces lagunes. Puis nous rentrons pour le repas de midi à 15h. On est un petit peu plus habitué là. 15h chez nos deux novices, Alessandro et Andrew, dans leur fraternité de prêtres où on nous attend. Là, nous sommes vraiment encore très très bien accueillis. Alors nous allons prendre le repas avec tout le monde. Se trouvent là des prêtres. Ils sont, je vous le dis, sont jeunes, là. C'est vraiment des... Ça n'a pas plus de 40 ans, là. 40-45 ans. Et il y a aussi des stagiaires, mais il y a aussi des jeunes qui ne sont pas nécessairement orientés vers la vie sacerdotale, mais qui vivent avec eux. Alors, ils ont à peu près 20 ans. Peut-être qu'un jour, ils décideront de s'engager dans cette vie religieuse ou autrement, mais ils vivent une expérience de prière importante avec cette fraternité de prêtres. C'est la joie, c'est du monde joyeux, c'est du monde heureux. Ils sont heureux, sont contents d'être là, sont contents de nous accueillir. Nous venons du Québec, ils nous accueillent comme des frères. Alors, c'est une expérience vraiment enrichissante. Une ambiance fraternelle, une ambiance joyeuse. Alors, nous rentrons pour le repos. Ils viennent nous reconduire parce que c'est pas la même maison. Il y a deux maisons de fraternité de prêtres. Il y a celle où nous demeurons et là, celle-ci, c'est celle où nous avons été accueillis pour le repas, donc comme des visiteurs. Alors, nous rentrons dans l'autre, celle où nous demeurons, et là, c'est le moment du repos. Évidemment, on prend le temps de se reposer. Je souffre de plus en plus de la pollution. Alors, ça va devenir dramatique. La fatigue également. Mon collègue, c'est pareil. Respiration limitée, les yeux rougis. Alors, ça commence à être volcanique, cette histoire de pollution à Mexico. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Elle s'était endormie dehors. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait goûté un tel repos. La descente des nuits, avec tant d'obscurité, l'avait jetée dans un nouvel abandon. Comme les poules d'en haut sur la montagne pointue, les moutons bêlaient tout autour et la nature respirait l'été. Mais un immense vide devait présider à son réveil. Ne sachant plus où elle se trouvait, elle s'inquiéta de savoir si les poules avaient eu leur eau et si les œufs avaient été ramassés. Elle se mit donc à bouger, et, voulant accomplir ses tâches habituelles, elle bascula de sa longue chaise et se retrouva par terre, sur le ventre, avec la chaise sur le dos. Là, elle se réveilla vraiment, prisonnière, et ne pouvant se relever, elle n'avait même pas la force de crier et de demander à l'aide. Dans ce vide immense qui la coinçait à nouveau, elle se surprit elle-même en disant: long horizon bleu. Sans repère ni boussole intérieure pour se guider, elle s'enfonça profondément dans cette troisième nuit, dont elle ne pouvait soupçonner l'horreur. Mais le passé ne reviendrait plus, se disait-elle avec soulagement. La dame de la montagne demeura ainsi bien des heures. Lorsque quelqu'un arriva, qui n'était pas Petit Jean, la trouvant ainsi étendue sous la chaise, il la dégagea et la releva péniblement. Le père de Petit-Jean tenait la dame de la montagne, le regard de sa jeunesse à lui. Il touchait cette femme au pouvoir extraordinaire, il la relevait de sa chute. « C'est moi, » dit-il en la soulevant.
« C'est toi, »
fit-elle en le reconnaissant. Agacé de ne pas voir Petit-Jean, il demanda: « Où est-il ? »
« Il s'en vient, »
dit-elle pour le rassurer. Le jour baissait. Le père de Petit-Jean l'avait conduite dans la maison. Elle était à bout de force, et ses tremblements recommençant, elle lui demanda de la mener jusqu'à son lit. Il la regarda, épuisée sur son lit, la tête lourdement enfoncée dans l'oreiller. Comme elle était petite. Entre elle et lui, il y avait tant d'échecs. Ils savaient tous les deux la marche non montée, celle qui avait donné lieu à tant de coups sur la tête de Petit-Jean, pour qu'il ne regarde pas l'impossible. Lui aussi, comme tant d'autres, avait dû vivre la rage au cœur et faire semblant pour tromper le village et cacher ses secrets. Soudain, la porte s'ouvrit. Petit-Jean découvrit son père aux côtés de la dame de la montagne. Il dit: « Je savais que le soleil lui rendrait ses forces !» Son père lui dit: «
Ses forces étaient avec elle, par terre. Petit Jean avait honte. En face de son père, il ne s'aimait pas. Pour la première fois de sa vie, il se trouvait lâche et coupable de sa longue absence. Cette fois-ci, son père n'y avait été pour rien, ni les autres, ni sa mère. Ce dimanche-là, il comprit que son cœur s'était durci, navré des excuses faites au curé seulement. Son père se leva et promit de revenir le lendemain.
« On ne fait pas tout seul la tonte des moutons !» avait-il dit.
Cet homme sortit, comme s'il eût été pour la première fois quelqu'un d'autre pour Petit Jean. Il revit la scène du miroir cassé. Son père venait de retrouver sa liberté. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.